Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 11 de la Sainte Sourate Hodiyot. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا
إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم صدق الله العلي العظيم.
Par les jeunes juments coureuses qui allaitent, puis qui font jaillir des étincelles comme d'un briquet, puis qui attaquent au matin, puis qui font ainsi voler la poussière, puis qui en enveloppent un groupe. Certes, oui, l'homme est ingrat envers son Seigneur. Certes, oui, et pourtant, il est de cela témoin. Certes, oui, et il est fort en l'amour des richesses. Ne sait-il donc pas que lorsque sera bouleversé ce qui est dans les tombes et que sera acquis ce qui est dans les poitrines, ce jour-là, certes oui, leur Seigneur sera bien informé d'eux.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir chers amis auditeurs, en ce dimanche 7 mars 2021, j'ai le grand plaisir de vous présenter le journal suivi d'un commentaire politique. Importants accords stratégiques Iran-Russie seraient en perspective. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci de votre écoute. À la une de ce journal, le message du président russe Vladimir Poutine transmis au leader de la révolution, l'Ayatollah Khamenei. Le président iranien Hassan Rouhani a exhorté les autorités irakiennes à accélérer l'application d'une ratification parlementaire exigeant l'expulsion des forces américaines du pays arabe. Et puis l'armée yéménite a progressé plus loin vers la ville stratégique de Ma'arib dans le nord du Yémen alors qu'elle s'efforce de libérer la ville occupée par les Saoudiens. C'étaient les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le message du président russe Vladimir Poutine transmis au leader de la révolution, l'Ayatollah Khamenei. Lors d'une rencontre samedi avec Ali Akbar Velayati, le conseiller du leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, l'ambassadeur de Russie a présenté le message du président russe Vladimir Poutine au guide suprême. Ali Akbar Velayati, lors d'une rencontre samedi 6 mars avec l'ambassadeur de Russie en Iran, a qualifié d'amis importants et durables les deux voisins Iran et Russie avant d'indiquer les relations commerciales, l'économie, culturelle et stratégique de longue date entre les deux pays sont un facteur important dans la continuité des relations stratégiques irano-russes dans divers domaines. Déclarant que les relations irano-russes sont stratégiques et basées sur le respect mutuel, le conseiller du leader évoque certaines évolutions régionales et internationales pour dire « Les relations régionales et les développements périphériques ont conduit à davantage de coopération et de l'interaction entre Téhéran et Moscou, d'où la multiplication des déplacements et des échanges entre les autorités des deux pays. Ce qui est important dans le processus de relations et de renforcement des interactions bilatérales. » L'ambassadeur de Russie, qui a porté la réponse du président Poutine au message au leader qui lui a été récemment présenté par le président du Parlement iranien, Mohammad Borrell Ghalibaf, tout en soumettant ce message au docteur Velayati, s'est félicité de l'élargissement des relations Téhéran-Moscou. Le chef du gouvernement iranien a exhorté les autorités irakiennes à accélérer l'application d'une ratification parlementaire exigeant l'expulsion des forces américaines du pays arabe. Lors d'un appel téléphonique avec le premier ministre irakien, Hassan Rouhani a déclaré que cette décision contribuerait à instaurer la paix et la sécurité dans la région, y compris en Irak. Il a souligné que l'Amérique a toujours joué un rôle destructif dans la région. Le président iranien a également exprimé son opposition à l'ingérence étrangère dans les affaires irakiennes, qu'il considère comme préjudiciable non seulement à l'Irak, mais à toute la région. Il a souligné que l'intégrité et la sécurité de l'Irak restaient une priorité pour l'Iran. En réponse, le premier ministre Mostafa al-Kazimi a remercié l'Iran d'avoir aidé à instaurer la paix et la stabilité en Irak. Il a également souligné la nécessité d'étendre les relations bilatérales à tous les niveaux. Le maintien du JCPOA, l'accord nucléaire iranien de 2015, nécessite la pleine mise en œuvre de la résolution 2231 par tous les États signataires de l'accord nucléaire, a déclaré le président Hassan Rouhani lors de l'audience accordée au ministre irlandais des Affaires étrangères. La République islamique d'Iran est la seule partie qui a payé pour le maintien du JCPOA. Mais cette situation ne peut pas continuer ainsi, et pour maintenir et relancer l'accord nucléaire, la pleine mise en œuvre de la résolution 2231 par tous les États signataires du JCPOA est essentielle, a déclaré le président Rouhani lors de rencontres ce dimanche avec Simon Coveney, ministre irlandais des Affaires étrangères. Le président Rouhani, tout en exprimant la volonté de l'Iran de coopérer avec les institutions internationales pour résoudre les crises régionales, a déclaré « La meilleure façon de résoudre les problèmes avec les partenaires européens à différents niveaux, bilatéral, régional et international, repose sur des négociations, sur le respect mutuel et l'évitement de toute menace ou pression ». Faisant référence à l'échec des sanctions illégales et à la pression maximale des États-Unis contre le peuple iranien, le président Rouhani a ajouté « L'activation du JCPOA en tant qu'accord international multilatéral dépend de la levée des sanctions américaines anti-iraniennes et le respect des obligations par tous les États signataires de l'accord nucléaire ». Se référant à la décision de l'Iran pour suspendre la mise en œuvre du protocole additionnel sur la base d'une loi adoptée par l'Assemblée iranienne, le chef du législatif iranien a précisé « Malgré la suspension de la mise en œuvre du protocole additionnel, l'Iran est toujours déterminé à coopérer avec l'agence et à remplir ses engagements. L'Iran est prêt à prendre des mesures compensatoires immédiates conformément aux dispositions du JCPOA et à remplir ses obligations après la levée des sanctions américaines illégales et après la renonciation des États-Unis à leur politique d'intimidation et d'oppression, a noté le président Rouhani. Faisant référence au rôle de l'Irlande en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour les deux prochaines années et facilitateur de la mise en pratique du JCPOA et de la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l'ONU, Simone Coveney a ajouté « Nous apprécions le JCPOA en tant qu'accord international garantissant la paix. Nous ferons de notre mieux pour maintenir le JCPOA et nous sommes prêts à jouer notre rôle pour aider à améliorer la situation et à reprendre les discussions entre l'Iran et les autres membres de l'accord. » Évoquant les changements au sein du gouvernement américain et le désir de Washington de revenir au JCPOA, le ministre irlandais des Affaires étrangères a conclu « Avec les nouvelles conditions, il y a une bonne opportunité de négociation et de dialogue et nous devons en profiter afin d'obliger tous les membres du JCPOA à mettre en œuvre de l'accord nucléaire. » La Troïka européenne s'est donné une chance en arrêtant le processus d'une résolution anti-iranienne. L'ambassadeur et le représentant de l'Iran auprès des organisations internationales à Vienne, Kazem Gharibabadi, a déclaré samedi que les trois pays européens, membres du Conseil des gouverneurs de l'AIOA, à savoir Grande-Bretagne, France et Allemagne, se sont donné une nouvelle chance en suspendant le processus d'une résolution anti-iranienne. Kazem Gharibabadi, l'ambassadeur et représentant permanent d'Iran auprès des organisations internationales à Vienne, en réponse à une question des journalistes sur la déclaration des trois pays européens concernant la suspension du processus d'une résolution anti-iranienne au Conseil des gouverneurs, a déclaré « Les trois pays ont affirmé que ce faisant, ils ont donné à l'Iran et à l'AIOA une autre chance de poursuivre leurs travaux sur certaines questions ». Ils ont déclaré qu'ils se réservent le droit de convoquer à tout moment une réunion extraordinaire du Conseil des gouverneurs. Je dois dire que les trois pays se sont en fait donné une autre occasion de s'acquitter de leurs propres devoirs afin de combler ce fossé créé en raison de leur inaction et de leur non-respect des obligations liées au plan global d'action commun sur le nucléaire de 2015. L'actualité, c'est également la liaison ferroviaire Iran-Irak au cœur des discussions entre les ministres de la route des deux voisins. Les ministres iraniens et irakiens de la route et des transports ont discuté samedi de la liaison ferroviaire entre les deux pays et la perspective d'une coopération conjointe pour connecter les chemins de fer reliant les deux voisins. Selon l'IRNAN, depuis Bagdad, dans une déclaration émise ce samedi 6 mars, le ministre irakien des Transports, Nasser Hossein Al-Shabli, a mentionné les points les plus importants concernant l'amélioration de la qualité des transports terrestres, maritimes, aériens et ferroviaires entre les deux pays, discutés lors de la rencontre, ainsi que la possibilité de relier le chemin de fer de Chalamtché au sud de l'Iran à la province de Bassora au nord de l'Irak. Direction le Yémen, l'armée yéménite a progressé plus loin vers la ville stratégique de Ma'arib dans le nord du Yémen. Je vous le disais en titre, alors qu'elle s'efforce de libérer la ville occupée par les Saoudiens. Des sources militaires affirment que l'armée et les forces d'Ansar Allah sont sur le point de libérer la ville. Les combats se sont intensifiés à Ma'arib entre les troupes yéménites et les forces soutenues par l'Arabie saoudite. Des sources militaires affirment que l'escalade a fait près d'une centaine de morts et de blessés parmi les forces soutenues par Riyad. Les rapports indiquent que Riyad a envoyé plus de troupes dans la province de Ma'arib pour empêcher une nouvelle avancée de l'armée yéménite vers le dernier bastion des forces soutenues par la coalition d'agression. Pendant ce temps, les services de renseignement yéménites ont signalé l'opération des terroristes liés à Al-Qaïda dans la province de Ma'arib. Le rapport indique que ces terroristes appuient les forces soutenues par Riyad avec une formation et un approvisionnement en armes. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique reste avec nous. Importants accords stratégiques Iran-Russie en perspective. Au cours d'une réunion avec Ali Akbar Veloyati, l'ambassadeur de Russie en Iran a remis le message de Vladimir Poutine en réponse à celui du leader délivré précédemment par le président du Parlement iranien. Lors d'une réunion avec le conseiller du leader de la révolution islamique pour les affaires internationales, Ali Akbar Veloyati, l'ambassadeur de Russie en Iran, Levan Zagarian, a remis le message de Vladimir Poutine en réponse à celui du leader délivré précédemment par le président du Parlement iranien, a rapporté Al-Olam samedi 6 mars. En début de réunion, M. Veloyati a appelé la Russie et l'Iran des amis importants et des voisins stables et a considéré l'ancienneté des relations commerciales, économiques, culturelles et stratégiques entre les deux pays comme un facteur important dans la poursuite des relations stratégiques entre les deux pays dans des champs variés. Les relations Iran-Russie sont stratégiques et sont basées sur le maintien du respect mutuel, a souligné Veloyati. Faisant référence à certains développements régionaux et internationaux, il a déclaré « Les relations régionales et les développements périphériques ont conduit à une coopération et une interaction accrue entre Téhéran et Moscou, et les déplacements des responsables des deux côtés ont joué un grand rôle dans le processus de relations et le renforcement des interactions. » La tenue des exercices maritimes conjoints entre l'Iran et deux puissances mondiales constitue un moyen d'envoyer divers messages aux parties belligérantes. Notant que la jouissance des relations stratégiques nécessite une coopération efficace au niveau international et au niveau régional, M. Veloyati a ajouté « Heureusement, la coopération Iran-Russie avec la Syrie, à l'invitation des autorités syriennes, a aidé le pays à résister et à vaincre ses ennemis qui avaient imposé une guerre internationale contre elle avec la participation de plus de 70 pays. La situation actuelle dans la région est telle que les deux pays peuvent être présents dans d'autres domaines en coordination l'un avec l'autre. » Et la coopération continuera sûrement à s'étendre et à se diversifier, a-t-il ajouté. L'envoyé russe a pour sa part exprimé sa satisfaction de la tendance croissante et du développement des relations entre les deux pays. Le renforcement des relations bilatérales entre la Russie et l'Iran a conduit à la consolidation et à la poursuite des relations, la coopération entre les deux pays qui ont pris des mesures efficaces pour améliorer les relations. Tout en mettant l'accent sur le développement global des relations dans les domaines de la défense, du pétrole, du nucléaire, de l'industrie, de l'agriculture, du commerce, les deux parties ont également discuté et échangé des vues sur les derniers développements régionaux et internationaux. Le 8 février, le président du Parlement iranien, Mohammad Bagheer Ghalibaf, a transmis le message du leader de la révolution islamique, l'Ayatollah Seyed Ali Khamenei, au président de la Douma d'État russe, chambre basse. Monsieur Ghalibaf a déclaré à l'époque que la question la plus importante de cette visite était de transmettre le message du leader iranien au président Vladimir Poutine, qui soulignait la force, la stratégie et la continuité des relations Téhéran-Moscou. À cet égard, Kazem Jalali, ambassadeur d'Iran à Moscou, s'est attardé dans un article intitulé « L'Iran et la Russie sur la voie d'un avenir radieux » sur le rôle de l'Occident et en particulier des États-Unis dans les relations russo-iraniennes, le qualifiant de destructeur. Selon le diplomate, le multilatéralisme est l'un des principes incontestables de la nouvelle ère des relations internationales. Tandis que la promotion de l'unilatéralisme, indépendamment de la capacité des autres pays à établir la stabilité et la paix dans la région et dans le monde, est une stratégie ratée. Les États-Unis n'ont donc qu'à reconnaître le rôle de la Russie et de l'Iran en tant que deux grandes puissances régionales dans la résolution des conflits et équations régionaux et mondiaux. Et de poursuivre que, compte tenu de la ferme volonté des dirigeants russes et iraniens de développer des relations bilatérales, le rapprochement de l'Iran et de la Russie, le renforcement des fondements populaires des relations bilatérales, en particulier dans les domaines économiques et socioculturels, font partie des solutions importantes qui doivent impérativement faire partie de l'ordre du jour des deux gouvernements. Le diplomate a conclu que la proximité croissante de l'Iran et de la Russie et la formation de nouveaux blocs régionaux, notamment avec la présence d'autres grandes puissances asiatiques émergentes, permettent de renforcer et de stabiliser les processus de multilatéralisme au niveau mondial. Ceci étant en conflit direct avec les intérêts et les aspirations de la nouvelle administration américaine qui a fait du slogan « leadership mondial » et en d'autres termes, unilatéralisme, le titre de sa politique étrangère.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission, le débat. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, on va se pencher sur ces récents développements relatifs à l'Iran et à l'Agence internationale de l'énergie atomique. Si vous avez suivi l'actualité, vous vous en êtes rendu compte que l'Iran, dans le cadre d'une loi adoptée par le Parlement, a décidé de mettre un terme à l'application du protocole additionnel au traité de non-prolifération nucléaire, au TNP. C'était une réaction de Téhéran au non-respect par des parties signataires de l'accord nucléaire de 2015 et de leurs engagements pris dans le cadre de cet accord. Vous le savez très bien que les États-Unis se sont retirés unilatéralement, c'était en 2018 de cet accord, mais s'agissant de la partie européenne également, des trois pays européens qui font partie de ces accords, ces trois pays aussi n'avaient pas honoré leurs engagements pris dans le cadre de cet accord. cela a conduit l'Iran, en fait, à prendre cette décision dans le cadre, comme je viens de vous le dire, d'une loi adoptée par le Parlement iranien. Finalement, l'Iran a en fait annoncé sa décision de suspendre, si vous voulez, sa coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique en ce qui concerne l'application. J'insiste sur ce point, l'application du protocole additionnel au TMP. Sinon, l'Iran continuera de coopérer avec l'Agence internationale de l'énergie atomique dans le cadre de l'accord de garantie, c'est-à-dire la coopération entre l'Iran et l'Agence internationale de l'énergie atomique se poursuivra, mais il y a désormais la suspension, si vous voulez, du protocole additionnel, la suspension, l'arrêt de tout accès de l'Agence internationale de l'énergie atomique, si vous voulez, aux installations nucléaires iraniennes, en ce qui concerne, si vous voulez, l'application du protocole additionnel. Sinon, en fait, l'accord de garantie sera à appliquer, bien sûr, par l'Iran et également l'Iran reste toujours membre du TNP, traité de non-prolifération nucléaire. Pour vous en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi deux invités. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission depuis Moscou un analyste, je ne sais pas si notre contact avec Moscou n'a pas été encore établi, mais en attendant, on va partir tout de suite à Damas pour rejoindre un juriste français spécialiste des questions internationales, maître Arnaud Develet. Maître Develet, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous, merci pour votre invitation, bonjour aux téléspectateurs et on espère que M. Bohr rejoindra bientôt.
Espérons-le. En fait, nos amis au Régide sont en train, en fait, d'établir ce contact avec Moscou. Maître Develet, je suis très content de vous avoir aujourd'hui comme l'invité de notre émission parce que vous êtes juriste, spécialiste des questions juridiques internationales également. Maître Develet, juridiquement parlant, comment évaluez-vous cette décision de l'Iran de suspendre sa coopération avec l'Agence internationale de l'énergie, pas sa coopération, disons-le, de suspendre l'application du protocole additionnel au TMP dans le cadre de cette coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, s'il vous plaît.
Alors, tout d'abord, il est important de souligner pour nos téléspectateurs quelle est la nature de ce protocole additionnel. Le protocole additionnel, comme vous l'avez très bien souligné, encadre les visites des inspecteurs de l'Agence internationale atomique sur les sites où l'enrichissement a lieu en Iran, à la différence près que le protocole additionnel met l'accent sur ce qu'on appelle de manière un peu cavalière les snap inspections, ce qui veut dire qu'en fait les inspecteurs selon ce protocole avaient la possibilité de faire éruption, si je puis dire, avec les délais les plus brefs, afin de prospecter, procéder à des visites surprises et inspecter donc les sites qui sont listés sur leur plan de travail. Vous l'avez très bien souligné, entre-temps et suite, dans le prolongement du retrait unilatéral US de l'accord sur le nucléaire de 2015, donc le 8 mai 2018, après que les Européens étaient archiversés, négociés, plaidés, procrastinés, si je puis dire, dans leur promesse, de eux-mêmes continuer à respecter leurs obligations, et deux, à l'aune du retrait bilatéral des États-Unis, d'essayer de contourner l'obstacle des transactions en dollars US en instaurant un système dit INSTEX, qui serait en fait quelque part une forme de troc. Il s'est avéré que les Européens n'ont pas été en mesure de mettre en pratique leur représentation, leur proposition, voire leur promesse. Certaines n'ont pas leur obligation que leur société ont des branches de la vie et donc devenaient en espèce d'imbroglio juridique, alors même qu'ils respectaient leurs obligations, enfin qu'ils souhaitaient en tout cas qu'ils avaient l'intention déclarer, d'honorer leurs obligations dans le cadre de l'accord sur le nucléaire, ils n'avaient pas les ambitions, ils n'avaient pas les moyens pratiques de pouvoir le faire, dans le sens où, dans la mesure où leur société serait amenée à collaborer, à investir en Iran, les États-Unis appliqueraient ce qu'on appelle les sanctions secondaires, verraient société européenne, donc être l'objet de sanctions et d'amendes très importantes. C'est d'ailleurs dans ce contexte que, pour les téléspectateurs, l'usine Peugeot, donc, qui avait pourtant projeté un taux de production de 450 000 véhicules par an dans le cadre de son retour sur le marché iranien, s'est vu obligé d'annuler, de retirer ce que les Chinois se sont empressés de remplir, de combler ce vide. Donc l'Iran n'a rien perdu par rapport à ça. La Chine a parfaitement, elle, honoré ses obligations.
Maître de Velay, là vous soulevez en fait un point très très intéressant, me semble-t-il. Vous l'avez dit que voilà, la France était présente, si vous voulez, sur le marché iranien. Vous venez de mentionner, si vous voulez, l'exemple de Peugeot, mais la France, comme vous l'avez dit, a dû en fait se retirer du marché iranien sous la coupe des sanctions américaines. Autrement dit, en fait, la France, malheureusement, en quelque sorte, par crainte de ces sanctions américaines, a quitté le marché iranien. Et Maître de Velay, le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, a en fait critiqué cette récente prise de position du côté de l'Union européenne, de la partie européenne également, et a qualifié, si vous voulez, de trop exigeante et d'injuste et erronée, si vous voulez, cette position adoptée par la partie européenne, alors que la partie européenne, si vous voulez, comme vous l'avez dit, comme je viens de le dire également tout à l'heure, n'a pas respecté malheureusement ses engagements pris dans le cadre de l'accord de Vienne, maître de Velay.
Oui, tout à fait. En fait, cela soulève la question de savoir si les Européens avaient les moyens de leurs ambitions politiques d'être des parties co-contractantes avec la souveraineté nécessaire pour pouvoir, en ce qui les concernait, en tout cas, honorer leurs obligations. Or, c'est ce qu'on a entendu depuis le début. Les Européens valorisaient l'accord, y trouvaient leur compte. Et dès que les Américains se sont retirés, les Européens se sont retrouvés dans une situation où, de facto, dans le cadre de leur mise en œuvre de leurs obligations, ils ont été amenés, en fait, à eux-mêmes, si je puis dire, violer l'esprit du traité. Puisque comment voulez-vous prétendre, d'un côté, rester dans l'accord et faire le nécessaire pour que l'esprit et les intentions initiales des parties soient honorées, quand vous-même, vous n'avez pas les moyens d'honorer vos propres obligations à cause de sanctions qui seraient éventuellement brandies contre vos sociétés. Donc ça prouve bien que l'Europe est un nain politique, que si les États-Unis décident de se retirer, les Européens, quelque part, j'allais presque dire par défaut, même si nominalement ils déclarent rester dans l'accord, en n'honorant pas leurs obligations, en exécutant Merci pas beaucoup. Ce qu'on attend d'eux, il est de toute évidence, les Européens ne sont pas en mesure d'être des parties sur lesquelles on peut compter. Je voulais Merci. Juste rajouter pour l'ouverture, donc cet état de fait, si vous voulez, a amené la République islamique d'Iran étant un état souverain, à prendre acte de cet état de fait, donc suite au retrait unilatéral américain, et le Parlement iranien, dans son pouvoir souverain, a décidé donc de passer cette loi permettant à l'Iran de réagir et donc de prendre des mesures, certes, possiblement intermédiaires, puisque le ministre des Affaires étrangères, M. Zarif, a bien souligné que pour peu que les États-Unis reviennent dans l'accord en suspendant les sanctions et en mettant en œuvre ce qu'ils devaient faire dès 2015, cette loi serait bien sûr revisitée et conditionnée à l'exécution des obligations américaines.
Merci beaucoup et maître de voler fort heureusement. Fabrice Berch, analyste politique et spécialiste des questions internationales, vient de nous rejoindre pour cette émission depuis Moscou. On va partir tout de suite à Moscou pour rejoindre M. Berch. M. Berch, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Malheureusement, notre contact n'a pas été encore établi avec Moscou et en fait M. Berch aujourd'hui reste toujours et encore injoignable. On va poursuivre notre débat avec vous, Maître Develet. Maître Develet, vous l'avez en fait dit, cette prise de position du côté des États-Unis également est fort bien en fait intéressante. Les États-Unis se sont retirés, si vous voulez, de l'accord nucléaire et dans l'état actuel des choses, au lieu, par exemple, de compenser leur erreur, leur politique injuste qui était celle de pression maximale adoptée contre l'Iran, reste toujours en fait exigeant à l'égard de l'Iran, mais il n'est pas question pour l'Iran de se laisser intimider, si vous voulez, par ce langage menaçant de Washington. On vient en fait de souligner l'exemple, si vous voulez, de la position adoptée par le leader de la République islamique d'Iran, qui dit que voilà, l'enrichissement de l'uranium qui se situe actuellement au niveau de 20% peut atteindre les 60% si le besoin du pays l'exige, c'est-à-dire suivant les besoins du pays. Comment expliquez-vous cette prise de position ferme du côté de Téhéran qui avait appliqué, si vous voulez, jusqu'à présent le protocole additionnel, disons-le volontairement, pour, si vous voulez, montrer sa bonne foi, mais Téhéran suspend désormais l'application de ce protocole pour protester contre le non-respect, si vous voulez, des engagements pris par d'autres parties signataires de l'accord. Mais comment expliquez-vous cette fermeté de Téhéran de vouloir faire, si vous voulez, valoir ses droits légitimes dans le cadre de l'accord nucléaire?
Alors, ce qu'il faut expliquer à nos téléspectateurs, c'est que l'accord de 2015 n'est qu'un élément d'un régime dit de non-prolifération dans lequel, par défaut, l'Iran fonctionne, à défaut de l'exécution par toutes les parties de l'accord de 2015. Il y a un régime de non-prolifération nucléaire qui est cristallisé par un traité, le NPT, hein, comme son nom l'indique, le traité de non-prolifération nucléaire, qui, pour peu que les parties signataires révèlent qu'ils cultivent l'énergie nucléaire, ont le droit de développer l'énergie nucléaire dans un contexte civil. Et l'Iran est parfaitement dans son droit de revenir au statu quo ante par défaut et de développer, ainsi que son statut de signataire du NPT depuis après, l'énergie nucléaire des nucléaires pour comporter l'énergie fossile. Donc ça ne pose absolument aucun problème en droit. Je dirais même que, quelque part, le ton de la déclaration du leader de la République islamique d'Iran laisse entendre en filigrane qu'il ne va pas se laisser ligoter par ce qui est devenu une situation de paix, à savoir que si aucune des parties à l'accord sur le nucléaire de 2015 ne remplit ses obligations, la perception qui ne peut découler de cet état de fait eu égard à cet accord, c'est qu'en fait l'accord a été mis en œuvre pour donner une espèce de fin à ce qui existait déjà comme droit légitime de l'Iran sous le régime général de l'accord du traité de non-prolifération nucléaire. Donc quelque part, c'est une manière de réaffirmer non seulement le droit souverain à l'Iran en conformité avec le droit international et avec ses obligations selon la signature du traité de non-prolifération nucléaire de poursuivre le développement nucléaire à des fins civiles, mais aussi de bien laisser, de bien envoyer le message aux parties co-contractantes de l'accord pour le nucléaire que ce traité ne saurait, en l'état des choses, être utilisé pour essayer d'influencer l'opinion publique quant au fait que l'Iran excéderait le pourcentage d'enrichissement que le traité était supposé mettre en œuvre pour peu que ces dernières les Occidentaux aient rempli leurs obligations. Les Occidentaux n'ayant pas rempli leurs obligations, de facto, et par le biais de la déclaration du leader, et par le biais du projet de loi, enfin de la loi et du décret adopté par le Parlement iranien exerçant sa souveraineté, l'objectif de développement d'enrichissement jusqu'à 60% est parfaitement légitime et parfaitement légal.
Maître de Develé, nous venons en fait de parler de cette position adoptée par, si vous voulez, ces trois pays européens qui a été en fait vivement critiqué par Téhéran. Nous venons également de parler un peu de cette de position adoptée par la nouvelle administration américaine à l'égard de l'Iran, qui est quand même une position ambigu et de contradictoire, parce que d'un côté, si vous voulez, les autorités américaines de Washington disent vouloir revenir, si vous voulez, à l'accord nucléaire pour en fait appliquer en bonne et due forme cet accord nucléaire, et de l'autre côté, ils disent que voilà, toutes les sanctions contre l'Iran sont maintenues, c'est-à-dire que voilà, nous sommes déterminés à maintenir cette politique de sanctions contre l'Iran. Mais Maître Develé, la prise de position adoptée par Moscou et Pékin était fort bien intéressante. Les autorités russes disent que voilà, si l'Iran a décidé, si vous voulez, de suspendre le protocole additionnel, de réduire ses engagements pris dans le cadre de l'accord nucléaire, la faute revient pas à Téhéran, mais si vous voulez, à Washington, aux États-Unis, qui se sont retirés unilatéralement de l'accord nucléaire. Et également, la faute revient à la partie européenne qui n'a pas honoré ses engagements. La position adoptée par Pékin également, Maître Develé, était fort bien intéressante. Aujourd'hui même, un responsable chinois avait en fait appelé les États-Unis à agir rapidement pour lever les sanctions contre l'Iran. Il a dit que voilà, nous sommes dans une situation sensible, névralgique, les États-Unis devront agir rapidement pour lever les sanctions contre l'Iran. Les Chinois et les Russes aussi se sont rendus compte qu'il n'est pas question pour l'Iran en fait de revenir ou bien de renoncer à ses droits sans la levée complète des sanctions, Maître Develé.
Écoutez, oui, en fait, on assiste à une espèce de dissonance cognitive en termes de presque l'appréhension de la réalité juridique des choses. Les responsables russes et les responsables chinois partagent l'analyse de la République islamique d'Iran sur la réalité juridique telle qu'elle est perceptible. Et pour eux, leur positionnement est un miroir du positionnement iranien, à savoir que débloquer la situation, la seule option possible et concevable serait pour les États-Unis de suspendre les sanctions et de mettre en œuvre leurs obligations, ce qui de facto les ramènerait dans l'accord. Or, ce qu'on entend de Washington est complètement cacophonique. On a un discours de campagne qui porte sur l'intention de l'administration Biden de revenir, de ramener les États-Unis dans l'accord et donc de remplir leurs obligations. On a des déclarations du secrétaire d'État qui dit que la stratégie de doctrine de pression maximale n'a octroyé aucun résultat et que, en fait, ce qui était anticipé, à savoir s'il n'avait pas eu l'accord, en fait, est en train de penser, à savoir que l'Iran reprend ses droits souverains et ne compte pas se laisser influencer par quelques discours d'intimidation, quel qu'il soit. Mais en même temps, on a cette même administration qui revient sur les déclarations au Conseil de sécurité au mois de septembre dernier de Mike Pompeo qui s'était ridiculisé en laissant entendre que les États-Unis pouvaient appliquer la partie remédiale les concernant découlant de l'accord sans être dans l'accord, ce qui n'a aucun sens. Et après, on apprend quelque part aussi que il semblerait que les États-Unis ne se soient pas opposés à ce que la République islamique d'Iran récupère pas moins de 8 milliards de dollars dans un contentieux qui découle plus ou moins de cette situation de pression maximale auprès de la Corée du Sud. Donc les signaux sont très contradictoires, mais en même temps cela révèle, j'allais presque dire, un certain bide, en tout cas une absence d'unicité et de cohésion dans la communication au niveau exécutif américain.
C'est-à-dire que, merci beaucoup. Merci infiniment, Maître Arnaud Develet, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Damas, capitale syrienne. Et c'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, à très bientôt. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité africaine. L'Iran entend renforcer sa coopération avec l'Afrique de l'Ouest. L'ambassadeur iranien a remis sa lettre de crédit à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. L'ambassadeur d'Iran à Lagos, Mohammad Ali Bek, a annoncé la remise de ses lettres de créditation à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et a affirmé que tout serait mis en œuvre pour renforcer les relations entre l'Iran et les pays d'Afrique de l'Ouest et cette organisation. Dans son tweet via son propre compte de Twitter, l'ambassadeur iranien au Nigeria a ajouté lors d'une cérémonie organisée à cette occasion à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, j'ai présenté ma lettre de crédit au président de l'organisation, Jean-Claude Barraoué. Il a expliqué que cette organisation a été créée pour développer la coopération politique et sécuritaire en Afrique de l'Ouest. L'ambassadeur iranien a confirmé dans son tweet « Les efforts sont concentrés sur le renforcement des relations de notre pays avec l'Afrique de l'Ouest et cette organisation. » «
Port Soudan Hueta trait d'une nouvelle rivalité entre Washington et Moscou. La mer Rouge et le golfe d'Aden sont devenus la nouvelle scène de rivalité entre les États-Unis et la Russie. La presse russe se montre très attentive aux événements au Yémen et au processus de libération de la ville de Ma'arib par Ansar Allah, tandis que ces derniers jours, le Soudan a également été le théâtre de nouvelles rivalités entre Moscou et Washington. Dans un rapport sur l'opération de Ma'arib, le journal russe The Gazeta a rapporté que l'armée et le comité populaire Ansar Allah du Yémen avaient progressé plus que prévu dans la province de Ma'arib. Le journal russe a écrit que les miliciens du gouvernement démissionnaire de Mansour Hadi et les frappes aériennes de la coalition d'agression saoudienne ne pouvaient pas arrêter l'avancée des forces du gouvernement de Sana'a à Ma'arib. Gazeta a ensuite souligné que la libération de la province de Ma'arib était la dernière opération majeure de l'armée et des comités populaires avant le début de pourparlers de cessez-le-feu. Dans ce droit fil, Hussein al-Da'azi, vice-ministre des Affaires étrangères du gouvernement de salut national yéménite, a déclaré que 10 des 14 zones de la province stratégique riche en pétrole de Ma'arib avaient été libérées. Le 28 février, un navire de guerre russe est entré pour la première fois à Port Soudan, un port où Moscou va construire une base militaire sur la mer Rouge. Selon l'IRNA, le service de presse de la marine russe en mer Noire a déclaré amiral des Grigs Gorovitch a été le premier navire de guerre russe entré à Port Soudan. Les médias russes ont rapporté que l'équipage de la frégate d'amiral Grigorovitch s'est rendu à Port Soudan où un point de soutien logistique pour la marine russe sera établi avec l'accord de la Fédération de Russie et de la République du Soudan. Un jour après qu'un navire de guerre russe a accosté dans le port stratégique de Port Soudan, un destroyer américain a accosté au même port. 7 ans après la fin de la coopération Washington-Khartoum, le destroyer américain Winston Churchill a accosté à Port Soudan, a rapporté le journal Al-Majadal de Soudanie. Environ 300 marines américains à bord de ce navire ont été accueillis par l'armée soudanaise. Port Soudan est l'un des ports stratégiques de la mer Rouge où le destroyer russe Admiral Grand Gorovitch a accosté ce dimanche. La Russie a annoncé en novembre dernier qu'elle construirait une base navale au Soudan d'une capacité de 300 de soldats et 4 navires, y compris des navires nucléaires, pourraient y stationner. Selon le journal londonien Al-Arab, les experts qui suivent les développements au Soudan estiment que le déploiement du destroyer américain à Port Soudan, juste un jour après l'arrivée du destroyer russe dans ce port montre la rivalité entre Washington et Moscou et envoie ce message à la Russie que les États-Unis ne permettront pas à Moscou d'établir une base navale au Soudan et de bouleverser l'équilibre des forces en mer Rouge. Sur le plan stratégique, le Soudan est situé à proximité du détroit de Bab al-Mandeb et surplombe la mer Rouge et le golfe d'Aden. Des dizaines de navires commerciaux et pétroliers géants traversent cette voie navigable chaque jour. L'Union africaine exhorte les États membres à garantir les élections sûres pendant la pandémie de COVID-19. Le Conseil de sécurité de l'Union africaine a appelé les États membres du bloc qui organisent des élections pendant la période du COVID-19 à garantir des élections sûres conformément aux directives de l'Union africaine sur les élections dans le contexte de pandémie de nouveau coronavirus. Lors de sa dernière réunion, le Conseil s'est penché sur les élections qui se sont tenues en Afrique pendant la période de juillet à décembre 2020 et sur celles qui se tiendront au cours du premier trimestre 2021, selon un communiqué de l'Union africaine. des pays comme le Burkina Faso, la République centrafricaine, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Guinée, le Niger, la Tanzanie et l'Ouganda ont organisé des élections au cours de la période de juillet à décembre 2020, tandis que le Congo et la Somalie n'ont pas encore organisé leurs élections qui devraient avoir lieu au cours du premier trimestre de 2021. Le Conseil a réaffirmé l'importance cruciale pour les États membres de l'Union africaine qui décident de procéder à l'organisation d'élections d'assurer la sûreté et la sécurité de la population contre la pandémie. Le Conseil de paix et de sécurité a exhorté les États membres à créer des conditions propices susceptibles d'encourager davantage de femmes, de jeunes et de personnes handicapées à participer activement à la vie publique et au processus politique, en particulier les élections, notamment en garantissant strictement des systèmes de quotas et en réduisant les frais d'enregistrement des candidatures aux élections conformément aux différents instruments ECAT africains. L'Afrique connaît sa première récession en 25 ans en raison de la pandémie de COVID-19. Le continent africain a connu sa première récession économique en 25 ans en raison de l'impact de la pandémie de COVID-19, selon un rapport de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies. Le rapport intitulé « Construire l'avenir pour une relance verte en Afrique » est publié il y a quelques jours, mettant en lumière la stratégie de reprise audacieuse du continent pour la période post-pandémique. Le document révèle que le continent a connu sa première récession en 25 ans avec des pertes de production estimées à 99 milliards de dollars. L'impact de la pandémie et celui du changement climatique sur la production économique devraient entraîner des pertes annuelles situées entre 3 et 5% du PIB d'ici 2030 dans le cas d'un scénario de maintien du statu quo selon le rapport. Ce texte cherche entre autres à soutenir la démarche courageuse du continent pour réaliser les objectifs de développement durable, atteindre les objectifs de l'accord de Paris sur le climat et concrétiser les objectifs de prospérité énoncés dans l'agenda 2063 de développement de l'Afrique sur 50 ans. Thank you.